VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, exhumation aujourd'hui des tombes présumées du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés lors du coup d'État de 1987. Les familles des victimes et leurs avocats sont invités à y assister. Maître Stanislas Benewende Sankara représente la famille Sankara.
Il faut souligner que les missions des experts ont été définies par le juge d'instruction. Ces missions consistent à déterminer les causes de la mort du président Thomas Sankara et de ses compagnons, mais également les chercher s'il n'y a pas de projectiles ou des balles provenant par exemple d'une arme à feu qui ont pu provoquer des lésions de nature à avoir donné la mort. Les experts vont également faire des fouilles pour voir si dans les tombes on ne pourrait pas retrouver des balles ou des projectiles, à l'effet également de les mettre sous et ordonner éventuellement une expertise balistique. Il y aura également la possibilité de faire des prélèvements biologiques aux fins d'ADN. Et en tout état de cause, les experts ont pour mission de faire toutes les observations pouvant concourir à la manifestation de la vérité.
Maître Stanislas Benewende Sankara, joint à Ouagadougou. Toujours au Burkina, le président de la transition a rencontré le corps diplomatique accrédité dans le pays pour un dialogue direct sur les prochaines élections. Au menu de la réunion, le code électoral dont le volet exclusion vient de faire l'objet de discussions au sommet des chefs d'État de la CDAO à Accra, au Ghana. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo, nous en dit plus.
C'est avec ses casquettes de président de la transition et ministre des Affaires étrangères que Michel Kapando a planté le décor basé sur le nouveau code électoral. On écoute le président Michel Kapando.
La révolution est passée et il y a eu ce code électoral, mais nous avons eu la sagesse de faire comprendre que nous pouvons mettre de côté certains dignitaires de l'ancien régime qui ont poussé à bout pour l'adoption de ce fameux article 37 qui devait proroger le pouvoir de l'ancien président. Tout cela, ils n'ont pas eu la sagesse de comprendre qu'il faut respecter le peuple. Bon, il est difficile que ces personnes-là, allègrement, reviennent dire « Bon, parce que nous sommes libres, nous allons encore aller aux élections avec les autres. » C'est du point de vue logique et de la justice, je pense que vous devez comprendre cela. Le CDP, parti de l'ancienne majorité, est libre de ce mouvement. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse au moins accepter que nous avons été tolérants. En tous les cas, je vais simplement vous dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à promouvoir le dialogue.
Dans l'organisation pratique de la rencontre, les journalistes ne sont pas autorisés à assister aux échanges. C'est ainsi qu'à la fin de la rencontre, nous avons accosté l'ambassadeur des États-Unis pour avoir la température dans la salle.
C'était des échanges assez fructueux. Le principal point, c'est la situation politique ici, l'insécurité au niveau du pays, au niveau de la région, et bien sûr la question du code électoral aussi a été posée. Mais l'idée de base, c'est que le dialogue continue, le dialogue entre différents acteurs, que ce soit acteurs nationaux ou acteurs internationaux, et à la fin, je suis sûr qu'avec le dialogue, on peut trouver des solutions.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, le virus Ebola continue à faire des victimes, notamment à Doubreka, 50 km de la capitale. Mais la tendance générale est à la baisse, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
La campagne de recherche active doit se poursuivre jusqu'au mois de juin, mais elle semble faire des effets car le nombre de personnes contaminées a baissé, confie le coordinateur national de lutte contre Ebola. Pour le docteur Sakoba Keïta, seules quelques localités de la zone côtière restent des cibles dans la lutte contre la maladie.
En Guinée, actuellement, la situation épidémiologique a tendance vers la baisse. Malheureusement, on a eu 2 cas positifs dans la préfecture de Doubreka. Nous sommes en train de rassembler tous nos moyens à Doubreka et à Boké, où nous avons de nouveaux foyers.
Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi, reprise des manifestations antigouvernementales aujourd'hui à Bujumbura, mais en demi-teinte selon l'AFP. Rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier soir le meurtre de l'opposant politique, dont le décès a entraîné la suspension par les adversaires d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza, du dialogue sous médiation onusienne qu'ils avaient avec le gouvernement. Timothée Donangmaï.
Les leaders du mouvement anti-troisième mandat ont fait part de leur décision hier à la faveur des funérailles de l'opposant Zedi Ferouzi, assassiné samedi à Bujumbura, en même temps qu'un de ses gardes-corps par des individus qui ont ensuite pris la fuite. Des milliers de personnes ont accompagné le corps de Ferouzi à travers la capitale burundaise jusqu'au cimetière musulman. Le plus urgent est de faire cesser les tueries et les assassinats organisés des leaders de l'opposition, a déclaré l'opposant Frédéric Bamvugi Nyumvira. Le porte-parole d'un autre parti d'opposition a dit de son côté qu'il ne peut pas garantir que les manifestants anti-gouvernementaux demeureront calmes. C'est un revers pour le dialogue amorcé au Burundi sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU, Saïd Djinit.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile pour une possible modification de la constitution qui ouvrirait la voie à un autre mandat. Idée déjà rejetée par l'opposition et même certaines formations de la majorité. Le point avec notre confrère Maurice Lemaire à Brazzaville.
Pour le moment, les consultations se poursuivent, vaille que vaille, comme les gens attendaient justement. Mais bon, il y a quand même un bémol, c'est le fait que l'opposition, appelée ici radicale, a refusé de participer à ces consultations. Du coup, on se chemine vers une décision présidentielle qui consiste à dire que, comme l'opposition ne s'entend pas, l'opposition a refusé et qu'il y a une partie de la classe politique qui a accepté de venir me rencontrer. Et comme il y a le non, donc il faut qu'on se chemine vers le référendum. Je me replie vers le peuple pour demander tout ce qu'ils veulent.
Tout porte à croire que c'est en ce moment que vont commencer les problèmes qui peuvent engager une épreuve de force entre le pouvoir et l'opposition du Congo. Pour beaucoup d'observateurs, ils pensent à une mascarade et ils disent « oui, les consultations seraient bienvenues, oui, ils ont entendu ça depuis longtemps, c'est arrivé, oui, il faut que la classe politique parle entre elles, mais ils ne s'attendent pas à vraiment de bons résultats qui peuvent satisfaire tout le monde ici. »
Le journaliste Maurice Lemaire, joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï. Conflit au Soudan du Sud, l'ONU profondément inquiète des conséquences catastrophiques des combats intenses dans le pays pour les populations civiles. L'ONG Médecins Sans Frontières aussi, vu que les affrontements empêchent le déploiement de l'aide humanitaire. Des précisions avec Lucie Le Carpentier, responsable des affaires humanitaires pour MSF à Djouba, capitale du Soudan du Sud, au micro de Claire Morin-Gibourg.
On a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper au combat. On est particulièrement inquiet aussi, notamment du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles pour votre personnel et notamment particulièrement dangereuses.
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air durant le week-end passé a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux, on sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort et aussi pour le sort des centaines de milliers de déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par la violence. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs d'obus et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse?
Nous avons déjà dû quitter l'air il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients de MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 210 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit à respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux.
Lucie Le Carpentier de l'ONG Médecins Sans Frontières joint à Djouba en Soudan du Sud. Les perspectives de réunion d'une conférence de paix sur la crise au Yémen sous médiation onusienne cette semaine semblent compromises après l'annonce par des officiels yéménites de l'ajournement des négociations. Pas de confirmation de la part de l'ONU du report de cette conférence de paix prévue jeudi. Au moins 15 raids de l'aviation gouvernementale syrienne aujourd'hui contre les djihadistes de l'État islamique qui occupent la ville de Palmyre depuis la semaine dernière. En Afghanistan, au moins 5 morts et plus de 60 blessés aujourd'hui quand un kamikaze a fait sauter un véhicule bourré d'explosifs à l'entrée d'un bâtiment gouvernemental à Zaboul, une ville du sud du pays. Et enfin, c'est aujourd'hui Memorial Day ici aux États-Unis, la journée du souvenir férié chômé qui honore la mémoire des soldats tués au combat. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Moi, je viens de là où...